j'suis sous Jack dans mon bendo. J'fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ses lolo. Elle m'a pas follow pas quand je les follow. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré.
Jamais j'ai vendu la mèche, petit peu j'ai connu la dèche. Chez nous le client est gueule, j'ai dit on te connaît pas mais le tarot est rush. Ça galère, j'monte dans mon bolide, j'balance du son à fond, j'roule dans la ville entière. Les types ont allumé les gravons, les anciens, la chaîne est alimentaire. Tu te retrouves à terre. Tiens. Je ferme pas ma gueule, mais qu'est-ce que tu vas faire? Wow. J'ai posé les bourreaux dans le refouge, je m'en bats les yokous. Je suis une boulangère. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je fume, je me dis demain j'arrête. Sale. Ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer.
Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré.
J'ai sorti ma marque, sorti ma trappe, les rappeurs m'ont pris pour leur modèle. Devant la maille, devant les femmes, trop de principes, on reste modeste. Les types ont cramé nos jeans, les bitches ont capté nos vies. Fais des avances à sa maîtresse. Mon fils joue à la play dans la pluie. Fais bien les choses, la vie c'est traite. Le fils du voisin joue à la dinette. J'ai pas l'argent par la fenêtre. Tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros j'ai dit bah moi l'argent.
Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. J'fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ses lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow.
Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ma belle? Tu me reconnais?
Ah bon?
Allez, danse sur ma choré.
Danse.
Allez, danse sur ma choré.
Moi, tu dis chevron. Toi, tu dis chevron.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma belle?
Bye, bye, bye.
Ça, maman, toi, tu me reconnais?
Bye, bye, bye.
Allez, danse sur ma choré.
Danse.
Bye. Allez, danse sur ma choré.
Bonsoir, il est 18h, je suis Victoire Lebars. Ce soir, nous nous retrouvons en direct du FRAC Normandie-Rouen à l'occasion de la sortie du premier numéro de la revue Pain Liquide qui accompagne le Tour de France de l'artiste Simon Nicaise en même temps que la fin de son exposition intitulée Art Thérapie. Pour la découvrir et en parler, nous accueillons sur le plateau l'artiste Simon Nicaise, les graphistes et éditeurs Sacha Léopold et François Avger de Syndicat et Empire Books et trois des auteurs et autrices de ce premier numéro, Théo Robin Langlois et Julie Portier et Damien Hérault. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ce premier numéro de Pain Liquide arrive en même temps que la fin de ton exposition monographique intitulée Art Thérapie, qui se déroule en ce moment au FRAC Normandie-Rouen. Tu as effectué un tour de France allant de Nancy à Marseille en passant par Sarlat. Comment tu as construit ton itinéraire et comment ce projet a émergé?
Tout d'abord, il y avait un peu l'envie de trouver une raison de partir au sens le plus large possible. Et après, en partant, est venue des questions. Je me suis vite... En fin de compte, j'ai été par hasard à Troyes, où se trouvait le musée de l'outil et de la pensée ouvrière. Et dans ce musée, il y avait un centre de documentation où il y avait principalement des livres autour du compagnonnage. Donc j'ai lu pas mal de livres autour de ça et je me suis dit qu'il y avait des concordances par rapport à des recherches que j'ai sur l'artisanat, sur des filiations, sur des rapports d'autorité, et est venue cette idée de faire un tour de France que j'ai entamé à Troyes et qui a été dans différentes villes.
Et au départ, il s'agissait donc de faire une édition comme restitution ou objet qui accompagnait ce tour de France ?
Non, c'est venu tout dernièrement. Il y avait un peu, effectivement, ce truc un peu bizarre. Là, on est dans une expo perso où la commande était de... Une partie de la commande était de faire une rétrospective, ce qui était étrange pour moi. Donc, du coup, il y a quelque chose de linéaire, en tout cas, ici, qui est présent. Et en même temps, moi, dans mon boulot, j'aime bien me dire qu'une pratique sert à créer des outils qui vont après créer des situations. Et c'est vrai que si on doit associer une expo monographique à un livre, ça va être un catalogue, une monographique. Et puis, c'est vrai que j'ai aucune envie d'enterrer mon travail, d'en voir une... Enfin, c'était pas l'intérêt. Puis du coup, de travailler avec Syndicat et Empire Book pouvait créer un outil qui accompagnerait mon boulot.
Donc, en discussion avec Sacha Léopold et François Agère de Syndicat, vous avez opté plutôt pour un format revue.
Alors, moi, je suis arrivé un petit peu en vous disant que je n'avais pas envie d'une monographie, que je n'avais pas envie d'un beau livre, que j'avais envie, effectivement, que ça soit un outil pour mon travail. Et de se dire aussi, moi, en fait, c'est vrai que, par exemple, j'avais appelé Julie, qui est juste à côté de moi, pour lui proposer d'écrire un texte. Et moi, dans mon boulot, j'aime bien être pas spécialiste quand je commence un travail de pas savoir techniquement comment je vais réussir à faire ce que j'ai envie d'engager. C'est vrai qu'on s'était appelé, tu m'avais dit c'est qui le comité de rédaction, tu m'avais, parce que tu as l'habitude de travailler dans une revue. Et moi, ça m'a pas fait peur, en fait. C'est vrai que moi, j'aime bien pas savoir. Il y avait aussi le truc de se dire qu'est-ce qu'on fait dans cette expo. Toi, tu parles de fin d'une expo, mais en fait, j'avais pas envie de vivre la chose comme ça. Alors, même si je suis stressé, j'avais envie d'être avec mes camarades et puis d'être là. Et en même temps, au même moment, dans les outils que j'avais créés, j'ai commencé à aménager une camionnette pour bouger. Donc, du coup, dans cette camionnette, il y a l'idée de pouvoir y dormir, il y a l'idée de pouvoir y faire d'y avoir une surface d'exposition, un atelier. Et puis, comme je... un peu tous les trucs que je fais, j'aime bien qu'il y ait un bar, du coup, et qu'en même temps, on était dans une période où on pouvait pas être mobile, du coup, j'ai créé une brasserie dans mon atelier, qui s'appelle la revue Pain Liquide, qui est aussi liée à l'idée du pain qu'on partage, qui est étymologiquement le nom du compagnon du devoir, et de relier ça, puisque du coup, la revue s'appelle Pain Liquide. Ce numéro s'appelle Golden Ale, qui est la couleur de la bière qu'on a brassée ensemble dernièrement. Alors, elle n'est pas là, puisqu'elle est en train de fermenter à l'atelier.
Et vous, Syndicat, donc Sacha Léopold et François Avgère, vous avez réceptionné la demande ou interprété la demande de Simon comment ? Est-ce que c'est vous qui avez amené l'idée de faire une revue ? Est-ce que c'est en discutant que l'idée, justement, de ne pas faire un livre fermé ou un livre presque terminé, quoi, comme pourrait l'être une monographie ?
En fait, c'est étonnant. Je vais commencer par représenter une situation qu'on a vécue avec Julie Portier, ici présente. On a travaillé il y a 3 ans ensemble sur la monographie d'un autre artiste qui s'appelle Guillaume Pinard. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, on se rend compte qu'il y a des envies de plus en plus récurrentes des artistes de ne pas tomber dans un piège un petit peu mortifère de la monographie, ou en tout cas où on arrête le travail à un endroit, et puis on imprime la dernière page, on ferme le livre, et puis on le range dans la bibliothèque, et puis c'est terminé. Et quand Simon nous a contactés la première fois, il avait en tête... un format de revue qui est une revue qu'on dessine et qu'on édite qui s'appelle la revue Faire, qui est une revue qui s'intéresse à la circulation des images, au graphisme, à l'art contemporain. Et il avait cette référence en tête d'un objet assez modeste qui puisse convoquer des références et qui puisse aussi circuler par sa modestie, qui ne soit pas une forme aussi... un objet trop érigé, trop massif, qui fasse aussi un petit peu figure, mais qui soit plutôt un objet qui puisse circuler, comme une revue ou un journal. Et donc, c'est aussi conscient des rapports à la revue, et puis assez excité par l'idée de mettre en rapport aussi des savoirs d'horizons assez différents, malgré tout, face à un travail, disons, d'une personne seule, même si le travail de Simon est à chaque fois ou très régulièrement un travail de collaboration. C'est aussi cette mise en confrontation d'un contenu un petit peu unique qui nous a intéressés.
Pour ajouter un petit peu aussi, il y avait en tout cas dans ce qui a évolué un petit peu dans la construction, parce que je disais que je n'avais pas envie d'être spécialiste, et puis du coup, il y a aussi l'idée d'apprendre avec vous. Il y avait l'idée, moi en tout cas, en fait, j'avais pas envie de lire des textes sur mon travail et j'avais pas envie de voir des images de mon travail. Donc du coup, au début, j'ai demandé aux autrices et auteurs un texte qui parle de la notion de compagnonnage au sens assez large et de voir comment ils pouvaient avoir des obsessions qui pouvaient se croiser. Et avec la réception des textes, puisque c'est aussi ça provoqué ce qu'on trouve à l'intérieur de la revue, il y a eu des textes qui ont été envoyés qui parlaient que de moi. Et du coup, ça, à un moment, ils m'ont dit il faut que tu bosses, et puis qu'il fallait que mon travail soit visible. Et c'est à ce moment-là qu'on a un peu décidé, je crois, d'intégrer à des images d'iconographie de ma collection, on va dire que je me forme, des images de mon propre travail. Mais initialement, c'était pas prévu qu'il y ait des images de mon boulot, comme c'était pas prévu qu'il y ait des textes qui parlent de moi.
Est-ce qu'on peut écouter une première interlude musicale? Simon, tu peux peut-être en parler. Vermin Sometimes de Thésaurus. C'est un ami à toi, mais apparemment un groupe légendaire de Rouen.
C'est un groupe légendaire de Rouen, voilà. Avec une légende, en tout cas une de mes légendes, un de mes maîtres rouennais, Philippe Inmer, qui fait partie du groupe The Vermin, qui est un groupe punk des années 80. Après, il a fait un groupe band en hommage aux Ramones, qui s'appelait les Ramins. Et Philippe, c'est quelqu'un d'important pour moi.
Sometimes I wanna know if you've been.
quand on ouvre la revue à la première page, enfin en tout cas la première page présente des signes graphiques noirs esthétiquement proches de dessins à l'encre, intitulé Manifeste pour un coucher de soleil, adhésif sur camionnette d'après un dessin d'Aloïs Niquez. Et l'esthétique de ces signes deviennent, on dirait, le fil conducteur tout au long de la revue, puisque émerge au sein du texte courant, donc du texte principal, ces lettres. Et on dirait qu'elles sont donc dessinées à l'encre, manuscrites ou calligraphiques, et qu'elles ont été, du coup, vos intentions au sein de la revue Syndicat. Et est-ce que cela est propre à la collection ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver au cours des prochains numéros ?
Étonnamment, toute une petite, il y a deux petites histoires typographiques dans la revue. La première est le caractère typographique employé pour le texte général de la revue, qui est un caractère dessiné par un typographe qui s'appelle Jean Janon, qui, pour les fans de la typographie, est quelqu'un à qui on a attribué le dessin du Garamond, et qui, en fait, absolument pas le dessinateur du Garamond. Il a dessiné un caractère qui s'appelle le Janon, qui a été récemment redessiné par un dessinateur de caractère suisse qui s'appelle François Rappeau. Mais pour l'anecdote, il nous paraissait intéressant puisque ce Janon, à l'époque, son fils, éditeur, libraire et imprimeur, décède. Le père essaye de récupérer l'imprimerie-librairie qui fait faillite. Et par la suite, pour survivre, il devient compagnon imprimeur. Et c'est à ce moment-là où il dessine le Janon. Ça, c'est pour l'histoire, disons, du caractère général. Et puis, ces lettres qui sont en fait seulement les U, les V, les G et T, qui sont les acronymes de Union, Vertu, Génie et Travail, et qui sont les mots d'engagement du père Soubise pour qualifier les valeurs du compagnonnage. Clé de lecture qu'on peut retrouver à la fin dans le colophon pour les intéresser.
C'est une intervention qui est très liée justement à ce numéro-là et à cette thématique-là qui est liée au compagnonnage. Et on verra pour le numéro 2 quel jeu pourrait être présent. Peut-être que ce ne sera pas un jeu qui sera dans le texte, mais voilà, c'était vraiment spécifiquement pour ce numéro 1-là, pour ce numéro 1 et ce sujet-là.
Et vous avez aussi convoqué un autre caractère typographique, ou en tout cas un dessin typographique en couverture, dessiné par Félicité Landrivon. En rapport, il me semble, avec une œuvre de Simon Niquez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, Félicité, qu'on salue d'ailleurs, aka Brigade Cynophile, qui dessine aussi des caractères qui sont souvent des renaissances, disons, de caractères historiques. Là, c'est un petit peu éloigné d'un caractère historique qu'elle a, d'une certaine manière, un peu tuné. Et ça nous rappelait une pièce de Simon, dont évidemment, on dirait que je vais oublier le nom, mais Simon va pouvoir nous le dire directement, qui est une installation sur laquelle existent des chapelets de cacahuètes ou des chapelets d'olives. Et finalement, c'est cette espèce d'agglomérat d'objets autour d'une structure qui nous intéressait. Cet objet s'appelle, assez modestement, Mobile à bascule.
Et est présenté dans l'exposition.
Et parce que du coup, ces lettres donc en gras, comme tu dis, est mêlée à une typographie qui semble plus mécanique, donc celle du texte courant, et à travers toute la mise en page, une grille de mise en page qui n'a pas l'air stricte, mais qui met en ordre un petit peu tous ces éléments, il y a comme un assemblage entre presque quelque chose de plus manuel et quelque chose de plus industriel.
Alors, je ferai le parallèle avec plutôt un rapport à la composition, mais là, qui tient à la fois de la manière dont on essaye d'articuler le travail de Simon, son légendage scientifique et les références avec leur légendage scientifique. Nous, on a toujours été assez fascinés, depuis l'école, par ces questions de la grille de composition. Quand je dis fasciné, c'est pas qu'on y voit un intérêt, c'est que justement, on a assez peu compris la fascination qu'on pouvait avoir sur des canons standards, très peu éprouvés avec des contenus aujourd'hui. Et on s'en est finalement jamais éloigné, mais on a toujours composé des grilles a posteriori de compositions peut-être plus libres qu'on a développées. Et pour ce numéro de la revue en particulier, on s'est attelé à articuler l'ensemble des légendes d'images de référence qui sont issues de la collection de Simon à une structure de grille qui sont toutes ces règles qui composent une page, qui définissent des rectangles d'empagement, des diagonales, des montantes, etc. Et donc, toutes les légendes tiennent sur des grilles, en référence justement à une espèce de notion de savoir, de composition visuelle.
Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait quand même très peu de hiérarchie dans les textes, sur les notes de bas de page et sur le texte principal. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté d'être plutôt dans un principe d'horizontalité et de réduire au maximum la hiérarchie ?
En fait, on a toujours trouvé les notes ennuyeuses à partir du moment où on les mettait au coin d'une page, à la suite d'un texte camouflé. Finalement, on se dit pourquoi les mettre ? Parce qu'à un moment, ça va aider des gens qui vont se forcer à lire. Mais ces notes-là, elles renferment des choses super importantes, des références qui nous paraissent cruciales. Donc, on se dit que si on les imprime, à un moment, il faut qu'elles aient une place équivalente au texte. Sans doute à un moment séparé, peut-être spatialement, mais finalement, les réduire à quelque chose de marginal, ce qui est techniquement le cas, c'est en marge, ça nous paraissait un petit peu dommage.
Il y a deux textes où, clairement, les notes de bas de page font partie du texte eux-mêmes, quoi, dont celui de Julie.
Julie, ouais.
Sachant qu'en plus de ça, dans le texte de Julie, il y a une reprise, un réemploi d'un texte, son propre commentaire et des notes autour de ça. Donc, il y a une forme d'articulation aussi de différentes origines de ces textes.
Je crois qu'aussi, les textes sont de nature assez différente les uns par rapport aux autres. Ce jeu qu'on a de ne pas faire trop de mise en forme des textes permet aussi, je pense, de mettre en avant leur contenu et de trop jouer la hiérarchisation. Finalement, on perd aussi l'essence du texte lui-même, parfois.
Mais parce que cette histoire de hiérarchisation, enfin de non-hiérarchisation, justement, elle est aussi présente dans le colophon. Normalement, le colophon, c'est un objet qui permet de contextualiser le livre, la revue. Et ici, le caractère typographique présente tous les contributeurs de la même manière. Est-ce que c'était aussi une volonté, justement, d'être sur une production horizontale ?
En fait, c'est toujours assez surprenant, ce type de question. Mais évidemment, si le livre, il existe, c'est parce qu'à des moments très différents, il y a eu des interventions de personnes. Et on a toujours eu du mal avec le lieu du colophon, comme de la couverture ou la quatrième de couverture, où finalement c'est une espèce de guerre de terrain, où à un moment il y a quelqu'un qui estime avoir plus travaillé un projet qu'un autre, quelqu'un qui estime plus d'avoir financé ou devoir montrer son image plus d'une meilleure forme, ou en tout cas en premier. Donc oui, il y a plein de contributeurs, et ça c'est la chance dans une revue qui fait 96 pages. On a quasiment une vingtaine de personnes qui y contribuent. Donc, évidemment, il faut que chacun y trouve au moins son nom, et surtout ses textes et ses images.
Simon, quand tu as contacté donc, les auteurs et les contributeurs de la revue, comment ça s'est passé ? Donc, tu as demandé un texte, enfin, en tout cas, une participation autour donc, du compagnonnage. Et comment, vous, auteurs et autrices, Julie, Théo et Damien, vous avez réceptionné la demande de Simon ?
Alors, ça s'est passé dans un train, par téléphone. Et avec Simon, on se connaît depuis longtemps. Et moi, j'ai trouvé la proposition un peu tordue. J'étais même un petit peu fâchée, je ne lui ai pas dit. Parce que finalement, comme il l'a expliqué tout à l'heure, il y avait une invitation à contribuer à une revue qui était là, qui était publiée en place d'un catalogue pour ne pas faire un catalogue. Et puis, j'étais invitée à écrire, mais pas sur lui. Alors, j'ai trouvé que c'était un petit peu tordu et on pourrait s'imaginer que le fait que je n'ai pas écrit directement mais emprunté un texte, c'était une manière de répondre avec un peu de provocation à ça. En fait, pas du tout. Simon l'a redit là, et c'est pour ça que j'apprécie de faire des choses avec lui, c'est que son travail, il englobe toujours d'autres personnes et il est toujours une manière de créer une situation dans laquelle on va être amené à faire des choses comme on ne les faisait pas d'habitude. Avec du radio, on s'est retrouvé à faire de la radio alors qu'on ne savait pas en faire. Et moi, je suis Enfin, j'essaye là de me détacher un peu de ça, mais j'ai une manière de travailler qui est assez conventionnelle. Et en tant que critique d'art, j'ai toujours écrit sur, à propos de choses. Et donc, en fait, c'était une manière de me mettre à l'épreuve, m'offrir finalement un espace dans lequel il faudrait que je sois un petit peu plus dans une création littéraire. Alors, peut-être que ce n'est pas très visible parce qu'il n'y a pas de création littéraire, parce que je me cache derrière une écriture sans écriture, mais qui est un mode d'écriture qui m'intéresse réellement. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai donc emprunté des morceaux de texte, j'ai fait un collage d'un texte, de plusieurs textes de Asger Jorn. Mais il s'avère que à ce moment-là, j'étais en train de me préparer à vivre une expérience qui était aussi une manière de me déplacer et dans laquelle j'allais faire des choses que je ne sais pas faire, ou être dans une démarche un peu plus créative que d'exégèse et d'analyse. Et donc, je m'apprêtais à participer à une résidence de création à Alpisola, à la Casa Jorn, donc dans la maison qu'a construite de ses mains de manière assez anarchique et sans savoir-faire, Asger Jorn, donc sur la côte ligure. Et voilà, donc finalement, je dis un peu ça dans tous les sens, mais il y avait une invitation à trouver quelque chose qui me ressemblait et qui en même temps me donnait l'occasion de produire un texte de manière plus littéraire et avec on en reparlera peut-être, mais avec un lien à la problématique qui était assez distendue, qui à certains endroits se retrouvait. Je dis assez a priori, le texte est à côté, puisque le texte commence en disant que on ne croit pas à la nécessité des objets ni au fait qu'ils soient bien faits.
Mais on va revenir sur ta résidence parce que il me semble que vous avez le même intérêt pour Asger Jorn avec Théo Robin Langlois.
Damien aussi un peu, non?
Théo, tu alors, veux parler de...
Comment ça s'est passé? Moi, j'avais la peur inverse de Julie, parce que, en fait, c'était le soir à la Villette. Je pense que Simon m'en a parlé. Donc, c'était un événement organisé par la Radio Du. Et moi, je suis toujours un peu gêné quand un artiste m'invite à faire un texte, pour une raison assez simple, c'est que les pistes sont un peu brouillées, c'est-à-dire au sens où j'ai fait des études de commissariat d'expo. Mais j'ai une pratique plus de texte qui est pas du tout de la critique d'art. Et j'ai peur de décevoir des attentes, en fait, quand un artiste me demande ce genre de texte. Et là-dessus, Simon m'a assez vite rassuré. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et après, comment t'as décidé de comment tu t'es lancé sur ton écriture?
J'ai lu des textes, en fait. Est-ce que c'est le... je suis tombé sur un corpus de textes qui étaient liés aux Compagnons du Devoir. Donc, c'était des choses qui composaient au 19e siècle. Et j'étais assez surpris d'une grande liberté typographique. Ça fait partie des choses qui m'intéressent dans mon travail, c'est-à-dire de mettre en page de façon particulière le texte, parce que la forme des... Enfin, je pense que j'apprends ça à personne autour de cette table, mais la forme des lettres et la façon dont elles sont composées dans l'espace a un gros impact sur la lecture et sur ce que ça veut dire. Et j'ai trouvé ça sur le site de Gallica, en fait. Et a posteriori, je me suis demandé pourquoi j'avais eu ce réflexe d'aller chercher cette littérature-là et pourquoi j'y ai pensé. Et j'ai repensé à un livre que j'ai amené ce soir.
Oui, moi, c'était un peu comme Julie, j'étais fâché. Mais à l'inverse de Julie, je l'ai manifesté. Je dis, mais de toute façon, j'écris ce que je veux, quoi. Il y a un sujet, etc. Enfin, fâché, on va dire gentiment. On a l'habitude de se fâcher, donc finalement, c'est finalement un rituel. Et j'étais parti, moi, dans des grandes idées. À chaque fois qu'on me commande un texte, je pars tout de suite un petit peu en sucette, dans des grandes considérations anthropologico-philosophico-esthétiques où je vais pouvoir révolutionner la pensée de l'homme, du monde de l'art, en 5 pages, et j'allais me jeter là-dedans, et puis à corps perdu, et puis finalement, il m'a prêté un bouquin sur le compagnonnage, et puis ça recoupait pas mal de trucs sur lesquels je travaillais beaucoup plus modestement à l'époque. pour des cours d'histoire de l'art que je donnais, qui était la sociologie des artistes au Moyen-Âge. Et donc, j'ai un peu mélangé tout ça, et ça a donné ce texte. Ça m'a fait bien... J'étais ravi de faire ce texte. Ça m'a fait vachement avancer, en fait, à plein de niveaux de ma recherche. Et, ça m'a, et même si j'y suis allé un petit peu au départ à reculons. Ouais.
Dans l'idée, encore une fois, de la revue des invitations, c'était d'avoir à lire des camarades, des amis ou des collègues, et de découvrir un petit peu ce qu'ils lisaient en même temps. Et du coup, ça peut être cool d'entendre Théo et puis d'entendre Théo. Quoi.
Oui, parce que avant d'écrire le texte, j'ai envoyé ce que je trouvais à Simon. Donc il y a eu un échange avant que je me mette à moi-même écrire.
Est-ce qu'entre auteur et autrice, vous avez partagé aussi des choses avant de proposer les textes à Simon, ou vous avez travaillé chacun et chacune de votre côté?
Théo, il avait proposé, en fait, ce que je trouve plus cool comme comité éditorial, d'aller voir le musée du compagnonnage, enfin le musée de l'outil et de la pensée ouvrière à Troyes. Et je trouvais que, enfin, et je me rappelle que Damien, parce qu'on était dans la même ville au même moment, il y avait cette idée-là. Mais c'est vrai que enfin, s'il y avait eu un comité éditorial idéal à ce moment-là, ça aurait été de visiter une exposition ensemble.
Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de... Bon, là, ça va paraître très rigide, mais qu'il n'y avait pas de sommaire dans la revue. Est-ce que c'était aussi un moyen pour ne pas orienter la lecture? Enfin, là, je m'adresse à tout le monde, hein, parce que je ne sais pas qui a pris ces décisions. Est-ce que c'était des décisions communes? Même s'il y a un premier texte, voilà, et puis que ça déroule... ne pas avoir de sommaire, ça permet aussi d'ouvrir le livre là où on a envie de... Enfin, un petit peu au hasard.
Et puis, peut-être que ça permet aussi de le parcourir comme une édition artistique, parce qu'en fait, il y a quand même une manière d'agencer les images qui peuvent se parcourir, oui, comme un livre édité, enfin, comme une œuvre éditée, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Enfin, moi, ça m'invite davantage, pas à picorer, mais peut-être à le parcourir de bout en bout, parce qu'il y a une suite qui n'est pas orchestrée de manière narrative dans les images. Mais les images, en s'agençant, elles nous racontent quelque chose quand même.
Et ces images, d'ailleurs, il y a des images en quadrille et des images tramées en noir et blanc. À quoi elles correspondent, une partie au travail de Simon et puis une autre à des archives ou des références?
Finalement, c'est le seul aspect didactique de cette revue. C'est juste d'imprimer les images de Simon en couleur et les images de référence en noir et blanc. Ce qui n'est en fait pas le cas de manière exacte. Mais l'idée était de trouver une forme de rythme et de cohabitation, évidemment, entre des vues d'expo ou des reproductions de pièces, des images de provenance assez diverses, mais que ce soit pour leur qualité ou pour une forme d'homogénéisation des esthétiques. Par le noir et blanc, ça nous amenait à créer des contrastes avec, disons, deux provenances. Et pour revenir à cette idée du sommaire, effectivement, c'est presque la forme la plus didactique qu'on a, c'est d'avoir des images en couleur, des images en noir et blanc qui cohabitent à des moments, qui se superposent, qui se répète aussi.
Et comment s'est passée donc l'articulation au sein de la revue de ces textes? Est-ce que ça s'est fait un peu au hasard? Parce que j'ai l'impression que le premier texte de Camille Richer, il convient presque à entrer dans le sujet, puisque justement on revient aussi sur les étymologies du compagnonnage et de compagnon.
On n'a même pas tellement échangé là-dessus, parce que ça s'est fait hyper naturellement.
On n'a jamais échangé sur l'ordre des images, l'ordre des textes. On a échangé en fait sur des doubles pages, enfin sur des formes de composition, sur des rythmes, sur des relations d'objet à objet. Et je prends le texte comme un objet, mais jamais sur un sommaire ou un ordre qui devait exister.
C'est plus, oui, effectivement, par rapport aux images, où en tout cas, au début, j'avais l'impression qu'il y avait une tentative, en tout cas, que les images ne correspondent pas de page en page au texte qui pouvait y être en face. Il n'y avait pas un rapport à l'illustration d'un texte. Et des fois, ça se posait parce qu'il y avait la nécessité d'eux. Et puis, en fin de compte, ça s'est passé comme ça s'est passé.
Et puis, parfois, par accident, une image pouvait être interprétée comme une illustration, alors que on l'avait pas choisi. Ce qui fait aussi cette grande discussion de toute l'iconographie ensemble.
On va écouter un son, une musique qui a été proposée par Julie. I Want to Hold Your Foot de Don Giovanni.
Très rapidement, parce que je ne suis pas spécialiste, c'est d'ailleurs une chanson qu'on m'a plutôt mise sous le nez au sein d'une discothèque qui ne comporte pas beaucoup de choses faites main. Donc il s'agit, c'est ça qui m'intéressait sur le thème de la... Déjà, la chanson s'appelle I Want to Hold Your Foot, plutôt. Et qui est une parodie des Beatles, I Want to Hold Your Hand. Donc je me disais que pour notre travail de la main, c'était plutôt rigolo. Et puis, il s'agit d'une reprise, de reprise, de reprise, puisque c'est sur un projet musical qui s'appelle The Deposit Returners, qui est mené par Jeffrey Lewis, et qui est en fait série de reprises, il est dit sur la pochette « Interpreted and Misinterpreted », d'un carnet de chansons de ce poète de la contre-culture, pacifiste, dessinateur satirique qui s'appelait Tully Kupferberg, qui a monté entre autres ce groupe qui s'appelait The Fugs, alors qu'il avait plus de 40 ans. Ça me donne de l'espoir.
What do you think is the sexiest part of the foot?
Oh, toes!
But you know what part we all get the most excited about?
Tu vas nous lire un ou plusieurs extraits de La Nuit des Prolétaires, Archives du rêve ouvrier de Jacques Rancière, qui date de 1981.
Oui, donc en fait, c'est un texte assez vieux qui est plutôt un travail d'historien, dans lequel il va se pencher sur une génération d'ouvriers qui se sont mis à écrire la nuit, d'où le titre en fait, du livre. Du coup, c'est une génération d'ouvriers qui commence à écrire dans un journal qui s'appelle La Ruche Populaire. Et ça finit un peu... Enfin, il change de revue entre-temps. Ça finit dans une revue qui s'appelle L'Atelier. Et il va suivre un peu chacun des parcours à travers ces années révolutionnaires. Et dans ce texte, on peut apprendre pas mal de choses comme comment se composer aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant ce texte, les hiérarchies ouvrières. C'est-à-dire pourquoi un ouvrier serrurier, c'est une caste, on va dire, plus reconnue qu'un tailleur de pierre ou... Comment ça se jouait. Il y a tout un passage aussi pour nos amis graphistes sur les typographes. Et on apprend notamment qu'eux n'étaient pas payés du tout à la journée, mais ils allaient à l'atelier tous les jours, ils étaient obligés. Et ils attendaient, en fait, ils étaient payés à la tâche. Ça, c'est pour résumer un peu le texte. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que c'est la façon de travailler de Jacques Rancière dans ce travail d'historien, c'est-à-dire qu'il s'est ponctué en fait de citations d'ouvriers qui écrivent, soit donc dans les revues, ça peut être aussi des échanges avec certains poètes avec lesquels il s'engueule, genre Victor Hugo. Et voilà, pour ce soir, j'avais choisi deux extraits. Le premier, c'était un menuisier, écrivain raté, abbé, qui s'appelait François-Auguste Le Dreuil. Je te ferai des bois qui n'existent pas, des lettres qu'on ne saurait lire, des images dont les modèles n'ont jamais existé, toujours en l'air comme les oiseaux, enivrés de soleil, causeurs, chantant à tous les échos des appartements vides, passant des lambris dorés à la mansarde, de la campagne à la ville, ne sachant la veille où l'on travaillera demain, toujours nouveaux compagnons et nouvelles figures, des bienvenus à tous les coins de rue, des tables servies à tous les barrières, des connaissances à tous les étages et de bonnes journées toujours. C'est un autre truc de ce texte, c'est que ça commence par plutôt des textes un peu émo, comme ça, enfin, beaucoup dans la complainte. Et au fait, au fur et à mesure, des textes, ils s'organisent, ils proposent des solutions un peu plus positives. Et donc, c'est aussi un livre qui fait l'histoire de ça. Et donc, à la fin, c'est un texte un peu plus radical, on va dire. Et je l'ai choisi parce qu'il y a aussi cette idée que j'ai découvert justement en faisant des recherches sur cette littérature, qu'en fait, pas mal de chants ou de poésies qui étaient composées à l'époque l'étaient sur des airs populaires. Donc des chansons que tout le monde connaissait. Donc ça pouvait très bien être la Marseillaise, mais aussi des chansons de bal ou des choses comme ça. Donc là, c'est un texte qui est composé sur l'air de Rantemplant. Lubrique ou bachique, je suis impatient des ordres sataniques et d'être officiant à l'immonde table, je viens en béa, me donner au diable en votre sabbat. À ma grâce en colure, à mon air libertin, on voit que par nature je suis un peu mandrin. Je ne tairai guère qu'en vrai Belzébuth, l'humaine matière fut souvent mon but. Vous avez souvenance des endiablés exploits quand notre indépendance nous fîmes autrefois. Faissant des rivières, gendarmes, mouchards, j'ai vu leur derrière au feu des pétards. Si l'infernal empire accepte mon bilan, ne faut qu'il ignore que ces jours bruyants pour moi sont encore petits jeux d'enfant. Oui, glacés d'épouvante, démons frémissez tous, celui qui se présente est plus diable que vous. Apprenez qu'en mon âme, un diabolique feu me fit croire en la femme comme l'on croit en Dieu. Je crois qu'au plus digne appartient le pouvoir, mais de la naissance, en diable enragé, je hais la puissance et les préjugés. Puisqu'il faut tout vous dire, garnement de l'enfer, la grande poêle à frire n'attend chez Lucifer. Soit dit sans mystère, sachez donc enfin que le nouveau frère est Saint-Simonien. Donc c'est un ouvrier Saint-Simonien qui fait une sorte de déclaration d'épouvante envers ses ennemis. Donc on peut voir l'Empire notamment. Et quand j'ai composé le texte, j'ai cherché un peu sur quel air moi je pouvais écrire aujourd'hui, parce que c'était un peu... Moi je ne connais pas la chanson du 19e siècle. Et après j'écoute beaucoup de musique en écrivant, et une des musiques les plus populaires... au sens plus connu que j'écoute, c'est sur les réseaux de Niska, donc on a entendu au début de l'émission. Et elle passait pendant que j'écrivais, et à un moment, dans le deuxième couplet, il dit quelque chose comme « Je m'en bats les couilles, je suis une boulangère ». Et voilà, du coup, je me suis dit que ça allait bien avec le titre de la revue.
Je vais élargir un peu le truc, mais comme j'ai découvert ta dernière publication... intitulé « Présomption de salariat » que tu as auto-publié, il me semble, ou édité quand même avec After Eight.
Non, c'est les presses séparées de Marseille. Ah. C'est un collectif marseillais qui m'a invité à lire tout d'abord. Et la lecture s'est bien passée apparemment, puisqu'ils m'ont invité en plus à produire un petit 16 pages qui s'appelle « Présomption de salariat » que j'ai composé avec Grégoire Souris. Quand je dis que j'ai composé, c'est qu'en fait, j'ai appris pour l'occasion à me servir d'une presse typographique. Donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, il y a plein de petits... chaque lettre est indépendante en plomb. Il y a des casiers où elles sont triées. On doit les assembler pour faire des petits paragraphes. Et ensuite, on met ça sur une zone qui s'appelle le marbre, qui est une surface lisse, et on vient passer la feuille par-dessus. Donc, apprendre à composer, moi, ça m'a beaucoup plu.
Et donc, j'avais une question par rapport à une partie du texte où tu dis « Tous ces emplois, je n'ai pu les faire que dans l'idée qu'une vie meilleure m'attendait, que j'allais vivre de mes écrits. En même temps, je me demande, aurais-je assez d'argent pour vivre de mon travail ? Ou ai-je bien fait de partir de mon dernier job chez Louis Vuitton, où on me proposait une augmentation de 10 euros par jour ? Du coup, elle est où la limite entre faire partie de l'entreprise de l'homme le plus riche du monde et pouvoir continuer à écrire ?
Je ne comprends pas la question.
Bah, comment tu décides à un moment de quitter ce travail qui finalement peut aussi financer, enfin te permettre d'avoir le temps de continuer à écrire ? Parce que c'est, enfin, moi j'étais là quand tu as quitté ton entreprise.
J'ai décidé à moitié, en fait, je me suis aussi fait les ligaments croisés, donc je pensais que mon corps m'envoyait un message. Parce que c'était un travail que je faisais qui était de l'ordre de la manutention, où je déplaçais des objets assez lourds. Comment j'ai décidé ? Il y a eu plein de facteurs. C'était avant le Covid. C'était un moment où je pouvais un peu gagner un petit peu plus d'argent par diverses activités reliées à mon travail. Et j'aimais pas du tout ce travail. Enfin, j'ai arrêté dès que j'ai pu, quoi. Je sais pas. et je faisais pas partie de l'entreprise. Ce qui est un peu expliqué dans ce texte, justement, c'est que j'avais un statut d'auto-entrepreneur. Et du coup, c'est une façon aussi dont ont les entreprises de faire du salariat déguisé pour employer des gens à qui ils seraient obligés d'offrir des CDI dans un monde normal. Donc voilà, c'était des conditions pas terribles puisque tu payes toi-même tes charges. Enfin,
je
sais pas si ça répond à ta question.
Si, carrément. Mais je reviens sur votre intérêt commun pour Asgard Jørn et donc faire un grand bond vers le texte.
Dans
le temps et dans la revue Pain Liquide. Donc vous avez un intérêt commun pour cet artiste. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur cet artiste pour les auditeurs ?
J'avais une question aussi à Simon parce que quand j'ai entendu l'introduction de Simon puis après l'intervention de Julie... cette idée de créer des outils pour créer des situations, c'est quelque chose qui, pour moi, est aussi présent dans le travail d'Asgard Jørn. Il a fait partie de nombreux collectifs. Il a énormément... On a l'impression, à un moment dans sa pratique aussi, que tout vient de collaboration avec d'autres gens. C'est-à-dire, il se met à faire de la tapisserie avec Irma, ou alors ça dépend un peu des gens qu'il rencontre. Il se met à photographier les églises pour comprendre dans la région normande, pour comprendre un peu les influences vikings en Normandie, mais c'est parce qu'il rencontre aussi ce photographe. Il y a toujours un truc comme ça où il apprend beaucoup des autres. Et même pour être allé aussi à Albisola, mais une journée, on sent vraiment dans la maison qu'il a construite qu'il y a tout un tas d'espaces. Moi, j'avais un peu peur en y allant que ce soit vraiment une sorte d'œuvre d'art totale, au sens où tout soit recouvert par son travail. Et en fait, sur place, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'espaces pour se détendre, pour regarder... C'est tout en haut d'une colline, donc on peut regarder la mer... Il y a vraiment un truc assez agréable, je trouve, dans la façon dont l'espace est construit, où on sentait où il venait juste cuire des chèvres avec ses copains. La question à Simon, c'est que toi, ça t'intéressait, cet artiste ou... Tu l'as découvert quand tu t'en as parlé ?
Ouais, moi, je l'ai découvert. Et puis, effectivement, il y a ce rapport à l'atelier. Qu'est-ce que tu fais d'un atelier, dans le texte, qui m'a évidemment intéressé. Bon, voilà, je ne cuis pas des chèvres, mais voilà, ça pourrait être autre chose. Effectivement, quel est ce lieu-là ? Et effectivement, dans les déplacements que je peux avoir dans ce Tour de France, ça questionne ça. Puis ça le questionne quand il est itinérant, mais moi, je le fais à l'envers. Ce Tour de France, il n'y a pas quelque chose qui est écrit d'une ville où ça ferait vraiment le Tour de France. Et puis, il n'y a pas non plus... j'ai une famille qui s'est même créée au début de ce projet, quand il a commencé. Et donc, du coup... Et puis, c'est un truc que j'aime bien, parce que ça me questionne maintenant, directement, en fait, tous les trucs que j'apprends, où je me demande qu'est-ce que c'est... Quand je pars, en fin de compte, je me demande qu'est-ce que c'est quand je reviens chez moi. Donc, du coup, ça... Et effectivement, il n'y a pas le truc de se dire quel est l'art total. Du coup, même quand on parle des outils, effectivement, avec Simon Ripoll, Lauren Beau, on a Christ Radio, avec d'autres personnes aussi, mais on se disait c'était cool, en fait, de ne pas faire de l'art, en fait. Et même d'être artiste, et puis de trouver des espaces où tu ne fais pas de l'art, où tu vas boire un verre, où tu brasses de la bière, et puis t'es pas en train... Enfin, quand vous êtes venu à l'atelier, Sacha et François, on n'a pas fait d'art, quoi. On a juste fait de la bière. Et c'était très bien comme ça. Donc voilà, c'est... Je sais pas si ça répond.
Mais d'ailleurs, Damien, tu parles, toi, du gâteau et de l'œuvre d'art comme offrande.
Oui, la situation, dans ce cas, c'est là où elle est intéressante chez les compagnons, et dans Du, et dans Yorn, et dans le Bauhaus imaginiste, et les recherches de Molinaggi, de Rodchenko, du Black Mountain et tout ça. C'est créer des outils pour créer des situations qui vont permettre de créer des outils, qui vont permettre de créer des situations, qui vont permettre de créer des outils pour faire des situations, etc. etc. Et en fait... Je ne suis jamais allé à la maison de Yorn, mais il y a ce truc-là de quelque chose de perpétuel et qui est absolument... Enfin, pas perpétuel, où ça reviendrait à un état d'origine, mais qui est toujours dans une sorte d'avancée, quoi. Une sorte de mouvement, toujours de montée, voilà.
Et qui participe aussi, d'une certaine manière, à une forme de transmission.
Qui participe à une forme de transmission et qui est théorisée hein, chez les compagnons, qui est théorisée aussi au Black Mountain ou au Bauhaus... ça passe par l'observation d'abord, ça passe par ensuite le deuxième principe, c'est le jugement. Donc il faut savoir regarder, ensuite il faut savoir penser sur ce qu'on regarde et ensuite le faire. Et c'est en fait ces trois activités qui définissent un mode de pédagogie qui est complètement para-institutionnel par rapport à ce qu'on apprend d'habitude à l'école ou la façon de transmettre qui est plutôt avec des contenus fixes et très peu d'autonomie. Et ce qui est surtout important dans ce truc du compagnonnage, je suis parti en cours, là.
Non, mais c'est pas grave, c'est très bien.
C'est la partie jugement, où aussi, à un moment, la personne qui participe à la situation peut décider, peut choisir aussi, avant de passer à l'acte, et dans l'acte, peut choisir là où elle va aller, et ce qu'elle va faire. Et ça, c'est super important. Et ça participe vraiment à... cette idée de créer des situations, justement, hein, qui soient toujours différentes.
Non, je me demandais, parce qu'à un moment, il y avait une collection d'assiettes qui était exposée.
Oui.
Et pour rebondir un peu sur ce que disait Damien, dans la façon de faire de la pédagogie non institutionnelle, et aussi sur ce que disait Simon, sur la frontière entre l'art et le non-art, il me semble qu'à un moment, Asgharian et certains de ses amis sont dit « Ah, on a une théorie, c'est que les enfants sont des meilleurs artistes que les artistes. »
Oui, oui, oui.
On va leur faire des assiettes.
Qui est dans la continuité de la vision de l'art Cobra aussi, tu vois, et même surréaliste. Enfin, oui, effectivement, Damien, tu as parlé du Bauhaus imaginiste. Donc, effectivement, le moment où Asger Yorn part s'installer sur la côte Ligure, donc en Italie, et qu'il trouve cette ruine, enfin, ces deux maisons sur un terrain... qu'il va entièrement restaurer pour pouvoir y habiter avec sa famille et pour travailler et pour accueillir d'autres amis artistes, d'autres artistes pour travailler, mais aussi échanger des moments de convivialité. C'est justement, et tu as raison Théo, moi, je ne suis pas devenue spécialiste d'Asger Yorn, hein, simplement je m'étais un peu préparée avant cette résidence, donc moi-même je me suis retrouvée... à non pas habiter la maison, mais à y travailler avec d'autres, avec des compagnons, des amis plutôt, artistes. En tout cas, Asger Yorn, dans l'immédiate après-guerre, il est malade et il vit isolé des autres artistes, mais il est très habité de tous les la période des avant-gardes. Il est pas allé au Bauhaus, mais il a vraiment une grande, presque un fantasme en fait pour ce qui se passait dans ce mode de pédagogie qui à la fois croisait art et artisanat, mais aussi avec des enseignants qui avaient une vision très spirituelle de l'art. Et donc, quand dans l'après-guerre, se remet à... Enfin, il a toujours travaillé, mais quand il se remet à se poser la question de ce qu'il a envie de faire et comment il a envie de travailler, eh bien, on le voit dans ses textes, en fait, il regrette hein, qu'il y ait moins d'endroits en Europe hein, pour que les artistes se retrouvent et débattent et expérimentent. D'ailleurs, il fait carrément un procès à Max Bill, qui a remonté donc une nouvelle version du Bauhaus sur des principes fonctionnalistes. Et lui, il dit non, mais ça, c'est l'académisme complet. Et puis, il y a tout un toute une correspondance entre eux. Asgerion lui propose de prendre la direction, de reprendre la direction de l'école. Mais en avançant une vision de l'art qui est fondée sur l'intuition, l'expérimentation, même sur l'expression personnelle, ce que rejette complètement Max Bill. Moi, c'était ça qui m'intéressait en ramenant aujourd'hui. C'est ça l'idée, de toute façon, ça vous l'avez compris, de republier un texte, en fait, republier des propos dans un autre contexte, c'est de voir comment ils résonnent pour nous aujourd'hui, quoi. Et donc de ramener cette question de ce débat autour du rapport entre l'art et les savoir-faire, l'art et les pratiques artisanales, comment il s'est, en fait, quelle a été sa cartographie, quoi, dans l'Europe des avant-gardes, quoi. Voilà. J'ai pas trop répondu à la question. Et donc, si, voilà, ce que je voulais dire, c'est que Damien a parlé du Bauhaus imaginiste. Et donc, pour, répondre à Max Bill, eh bien, Asgerion monte, en fait, un Bauhaus imaginiste, mais qui est en fait une résidence d'artistes faite avec des copains, dans lesquels on retrouve Matta, Pino Galizio, Pierre Vermeer, avec lequel il fait des grandes tapisseries, et aussi des... On parlait tout à l'heure, avant l'antenne, là, de cette commande publique d'une grande pièce en céramique sur laquelle ils ont fait marcher des chiens, et puis fait rouler carrément un Vespa pour qu'il y ait une trace de roue.
Et sur ce modèle de résidence, du coup, est-ce que c'est plus proche de ce que toi, tu as pu vivre au sein de la résidence que tu as réalisée ? Est-ce que tu te sens plus proche de ce modèle-là, alors d'école ou de résidence ?
Moi, je pourrais pas dire ça parce que je suis enseignante en école d'art et tout ça, donc et puis je suis pas artiste non plus. Si tu veux que je parle 5 secondes, quelques minutes de cette expérience, ce qui m'a amenée à Asgerion, en fait, c'est vraiment que j'ai été invitée par Paul Bernard. Qui lui avait, il est conservateur au MAMCO, et il avait organisé une grosse exposition sur les situationnistes. Et il s'avère que Asgerion a fait partie du mouvement situationniste jusqu'à ce que les artistes soient exclus du mouvement. Et donc, il y avait comme ça une possibilité de monter quelque chose. Dans cette maison, donc, qui est une maison muséifiée, en fait, qui est une maison d'artistes qu'on visite de manière historique, quoi, comme ça. Et donc, l'idée de départ, c'était aussi de réunir plutôt une troupe d'amis artistes. Hein, donc, je dis leur nom pour être juste avec cette histoire. Donc, il y avait Stéphanie Cherpin, Sarah Tritz, David Évrard, Béatrice Delcorde, Ambroise Thiège, Denis Savary, Pierre-Olivier Arnaud, Gilles Gasparina, Claire Fitzgerald et moi. L'idée, c'était de partir sans projet vraiment. Enfin, je veux dire, voir ce qu'allait se passer. On est resté 10 jours. Mais on est resté 10 jours, bien sûr, en emmenant chacun quelques trucs. Moi, très peu. J'avais juste lu avant de venir. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Et avec Gilles Gasparina, on s'était dit, en tout cas, nous, on ne va pas faire les travailleuses du texte pendant que les autres, ils vont picoler. Donc, on ne va pas faire juste l'exégèse et l'appareil critique du projet. On va faire autrement. Et in fine, on a fait un grand collage qui va certainement donner lieu à un livre où on a aussi... coller des images et des textes en rapprochant des choses qui, a priori, n'avaient pas de rapport entre elles. Donc, faut savoir aussi que je n'ai pas parlé de Albizola, comment c'était fait, mais c'est vraiment enfin, Guy Debord en parle en fait comme une architecture sauvage, comme, enfin, et il en parle aussi un peu a posteriori, comme en se rabibochant avec Asgerjorn, en redisant, ah, il a toujours fait partie des situationnistes, hein, donc en disant que voilà, que c'est alors qu'il avait été exclu, en disant que c'est si le situationnisme avait donné lieu à de l'urbanisme, parce que c'était ça le projet, hein, des situs, eh bien ça aurait ressemblé à ça. Et il s'avère que, je le dis parce que il y a une image dans les images que parmi celles que je vous ai proposées, en fait, Sacha et François, vous avez décidé de prendre les images où on voit Asgerjorn et Umberto Gambetta, donc qui est le maçon avec qui il était copain, qui était presque son voisin, je pense, et avec qui ils ont construit de leurs mains cette maison qui est faite essentiellement, donc qui se démarque par un usage du collage aussi, en fait, de la mosaïque. Donc c'est une maison qui est quasiment faite que de détritus de céramique collés entre eux, dans lesquels on retrouve aussi, par exemple, des, et il y a aussi des coquillages, des pierres trouvées, et collectionnées des pierres. Et on retrouve aussi des sortes de gaines de fils électriques en céramique. Enfin, vous voyez comment ça fait une sorte de spirale. Parce que Umberto, il travaillait aussi sur les chantiers. Donc, il y avait ça aussi.
Et est-ce que pour qu'on découvre ton collage, justement, de textes au sein de la revue Pain Liquide, tu peux nous lire peut-être une partie
Alors, je le rappelle, hein, l'idée du texte, c'était de ne pas introduire, en fait. Ça dit mon nom, là, Julie Portier pour la forme, donc, qui est le titre d'un texte de Jorn. Et c'est seulement à la fin que, même si on le comprend en lisant que ce texte n'est pas actuel, que je fais un commentaire. Nous ne sommes évidemment pas opposés à la technique moderne, mais nous sommes contre toute idée de nécessité absolue des objets, allant jusqu'à douter aussi de leur utilité effective. La capacité de créer des objets indépendants est considérée par des architectes comme Le Corbusier comme un signe de la supériorité de l'homme sur la nature. Mais il n'y a pas de supériorité, il n'y a que contrariété. Ce qui rend la sphère d'une orange imparfaite, c'est la tige qui donne aux fruits la possibilité de se développer et les graines qui la lient au futur. L'homme est capable du contraire. Il peut lier et unir entre eux deux objets indépendants, une pierre trouée et un bâton de bois lui permettant de créer le premier marteau. Là, par exemple, j'ai pensé bien sûr à Simon quand j'ai lu ça. Il peut unir donc une roue à un essieu. Voilà le secret de la technique humaine, réussir à unir entre eux deux objets apparemment indépendants. Donc ça renvoyait aussi à notre histoire de collage, rapprocher deux choses qui n'ont pas de rapport. Je rappelle que le projet, je le dis vite fait, je ne l'ai pas dit, à Albizola, s'appelait Ballard in Albizola. Donc en fait, il était question de rapprocher la science-fiction de cette histoire situationniste, a priori rien à voir. Moi, je pense que je n'aurais pas le temps d'en parler, mais bon. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui comprennent la contradiction des conceptions entre les deux formes de construction homme-nature, la nature est un vaste champ d'apprentissage. Il ne faut pas oublier que l'homme lui-même appartient à la vie biologique et par conséquent, il a plus de liens communs avec les plantes ou les animaux qu'il n'en a avec les cristaux, source d'inspiration pour certains architectes soi-disant objectifs. Ça, je trouve ça tellement dingo de dire ça comme ça. Et puis, je vous lis la fin du texte, peut-être. Max Bill écrit dans une lettre à Asgerjorn, ça va illustrer cette histoire de relation avec Max Bill, en 54. Nous n'entendons pas par art une quelconque self-expression, mais un art véritable. On voit le débat là. Nous ne sommes pas d'accord avec le travail du groupe Cobra ni avec celui des groupes semblables. Ce point de vue correspond logiquement à celui que Bill manifestait dans un récit antérieur en 53 en disant « Pour nous à Ulm », donc c'est le nouveau Bauhaus, l'art en question est considéré d'une manière différente qu'il ne l'était au Bauhaus. La self-expression passait pour une partie intégrante de la forme. » Et donc là, une partie qui m'intéresse, je vous la lis rapidement. Quelle est l'importance de l'expression personnelle dans la forme ? On se le pose en fait aussi, même dans les écoles d'art, chaque jour. L'humanité existe grâce aux individus et l'intérêt de l'individu dépasse son existence propre. Les intérêts communs à l'humanité représentent une subjectivité collective. Voilà la nouvelle conception de la subjectivité aujourd'hui. Elle révolutionne toute la base théorique et idéologique de l'art et de la technique future. Nous avons lié les phénomènes et ils sont entrés en une synthèse vivante. Nous avons créé une conception dynamique de l'art et de la technique et la fin dernière de tous les arts et de toutes les techniques est de créer des valeurs communes, de servir les intérêts humains. Mais aucun art ni aucune technique n'a jamais jusqu'à présent commencé de cette manière, parce que c'est impossible. Toute entreprise commence en tant que jeu inutile, dans un cercle fermé d'intérêts, voire même comme satisfaction personnelle. Mais la satisfaction individuelle et son expression personnelle ne sont pas sans intérêt pour d'autres individus en tant que nouvelle possibilité ou nouvelle expérience. C'est le cas même lorsque l'intérêt ne se manifeste que sous la forme d'admiration passive. Il y a dans l'expérience personnelle la synthèse de deux éléments indépendants et distincts. Une self-expression peut être absolument conventionnelle et insignifiante si elle exprime un être limité. D'autre part, une chose neuve et originale peut n'être d'aucun intérêt si elle ne satisfait aucun désir humain. Voilà pourquoi la conception de l'art courante entre théoriciens de l'art moderne comme Herbert Reed est fausse et réactionnaire. Pour eux, l'art est un composé de deux éléments, l'auto-expression et l'ordre. Nous, au contraire, nous ajoutons, on dit plus je là, on dit nous, au contraire, nous ajoutons aux deux éléments précédents un troisième autonome qui est celui de l'expérimentation. Pour bien comprendre cette situation, il faut d'abord se rendre compte de l'attitude esthétique ou expérimentale qui est et ne peut être que l'attitude de l'amateur. L'artiste libre est un amateur professionnel. Bon, là, j'y pensais assez, moi aussi. L'esprit de l'amateurisme est à l'origine de tout progrès. L'esprit d'amateurisme ne demande pas un autodidactisme complet, mais la capacité de pouvoir surmonter ses connaissances et d'arriver à une nouvelle innocence, un nouveau point zéro ou un sentiment de ne rien savoir. D'où le fait d'inviter des enfants à collaborer dans ce Bauhaus imaginiste.
Mais il y a une différence, parce que tout à l'heure, tu parlais d'Asgurian et tu mentionnais... Enfin, je sais pas, il y a des déclarations, je ne l'ai pas en tête par cœur, où il est assez radical sur le fait que presque les images qu'il produit, c'est pas qu'il en a rien à faire, mais c'est pas... l'esthétique... Enfin, il n'a pas un rapport, on va dire, d'amour à une image qu'il va produire. Et lui, c'est dans une production expérimentale qu'il trouve un peu ça... sa joie, et j'ai l'impression que dans les objets que tu produis, Simon, c'est assez différent. Ou alors, est-ce que je me trompe ?
Moi, je pourrais juste dire que je ne prends pas de plaisir à, des fois, à fabriquer des objets que je suis en train de faire. Voilà, ça serait juste... Je sais, ça ne répond pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas, l'idée de... De jouissance du fer ou de je sais pas quoi. Enfin, voilà.
Parce que pour moi, c'est assez différent entre... Parce que bon, depuis tout à l'heure, on parlait d'un peu des choses qui étaient pareilles et j'avais envie juste d'essayer de dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas pareilles. Mm-hmm.
Oui, et dans le texte, il y en a beaucoup. Enfin, parce qu'il y a beaucoup d'extraits, il y a des choses effectivement qui lient. Moi, j'étais heureux du texte parce qu'effectivement, il y a plein d'endroits où je ne m'y retrouve pas. Il y a pas mal d'autrices et d'auteurs dans des textes dans lesquels qui ne parlent pas d'une vision de... Enfin, on n'a pas une vision partagée, complète, sur ça. Et mais après, il y a des endroits, par exemple, dans ce texte-là, il y a l'idée de... Moi, j'aime bien la notion de réversibilité de l'objet. Et en même temps, dernièrement, c'était super bien, parce que j'ai eu la chance de travailler à Zebra 3 avec Antoine Benelli, qui est responsable du pôle métal. Et le pôle métal, du coup, on a fait plein de soudures, on a fait des trucs. Et puis, dans la soudure, c'est de prendre deux éléments distincts pour n'en faire plus qu'un. Donc, du coup, c'est même pas un collage, quoi. C'est même pas un truc comme ça. Du coup, t'as plus de réversibilité possible à part de découper ou de démembrer les choses. C'est vrai que moi, j'aime bien les paradoxes. J'aime bien quand les antagonismes peuvent se réconcilier. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie des cœurs de mon boulot. Et je dois dire que cette itinérance m'a permis un petit peu de me dire que bah non, on ne pouvait pas tout réconcilier. Tous les paradoxes n'étaient pas cool à voir. Et puis que c'était des fois bien comme ça.
Je vais juste faire un bond vers le texte de Damien, Mais je voudrais juste revenir sur un passage de ce texte. Là, je fais un lien aussi avec la proposition de lecture de Théo, donc, qui est concentrée sur la révolution intellectuelle du mouvement ouvrier des années 30, de 1830, pardon. Cet extrait de ton texte, c'est « Les qualités du bon artisan constituent celles du meilleur des humains, une fois appliquées à la vie quotidienne ». Donc, il y a quelque chose quand même d'utopique là-dedans, mais est-ce qu'autour de cette table, justement, on ne se rejoint pas tous autour de cette idée de porosité indispensable et innée entre, d'une part, notre travail et notre vie dite quotidienne, et d'autre part, les gestes et les rapports aux autres ?
Le travail artistique ou la réflexion sur l'art comme permettant une forme de progrès moral pour l'individu qui va améliorer la société par capillarité ou contamination. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc moi, chez les compagnons qui m'a vraiment marqué, auquel je pense, c'est sur cette question du lien et de coller des bouts dont tu parlais tout à l'heure. C'est que chez les menuisiers, ce qu'on demande à faire au départ, c'est des tréteaux. Un petit peu comme chez les cuisiniers, quand on rentre dans un grand restaurant, il faut faire une omelette parfaite. C'est le truc quasiment impossible. Et en fait, un tréteau, c'est 4 pieds et une barre horizontale. Et quand on va voir les tréteaux des apprentis compagnons au musée des compagnons à Paris, ils sont complètement dingues. Il y a des tonnes de bouts de bois qui sont rajoutés pour que ces 4 bouts fondamentaux se soient mieux raccrochés les uns aux autres et soient raccrochés. Les bouts de bois qui servent à raccrocher 2 pieds, par exemple, sont reliés à d'autres bouts de bois qui servent à raccrocher d'autres bouts de bois, etc., 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 etc. C'est à la fin qu'à l'intérieur, on a une sorte d'arbre qui se construit à l'intérieur de ces 5 bouts de bois super bizarres. Et les apprentis trouvent des jeux arithmétiques infinis de façon de créer un arbre entre les 4 pieds de leur tréteau. Et je trouve que cette façon de toujours trouver des ponts, des façons de relier, des liaisons, des façons de solidifier en permanence, quitte à faire, dans le cas des tréteaux, hein, quelque chose de très lourd, le travail, ça va être d'alléger après dans les 5 ans de leur tour de France. Enfin, je sais pas, je trouve que ça correspondait avec ce que Simon disait sur le lien, et puis d'un objet qui est assez aussi spéculatif, finalement, qui n'est plus vraiment fonctionnel. Il est trop lourd, il est trop chiant, il est trop compliqué. Mais il y a un lien avec la démarche artistique, oui, à ce niveau-là. Alors ensuite, sur la question morale ou éthique, bah oui, symboliquement, elle est peut-être dans cette métaphore de construire son tréteau, qu'il soit bien stable, et transmettre la façon de construire ce tréteau. Je ne sais pas.
Ton texte, il y a un rapport historique aux compagnons du devoir, il y a un rapport sociologique à ce que fait la main, il y a un rapport un truc qui m'intéressait aussi chez les compagnons du devoir, qui était le... Du coup, c'est pas qu'une corporation, c'est une forme de
mutuelle,
puis de défense d'un. Et moi, ce que je trouve intéressant, et puis en plus, c'est des trucs dont on avait discuté. C'est pas pour tout mélanger, mais c'est le rapport. T'es pas artisan, enfin, t'es pas ouvrier, pardon, t'es pas. Enfin, du coup, t'es artisan. Et du coup, ça crée une. C'est pas une sorte de classe moyenne, mais un rapport comme ça, d'un truc entre pas le bourgeois, pas le prolétaire, et en même temps, de quelque chose qui a un endroit où, dans l'endroit de la défense de ce que c'est, en fin de compte, c'est quand même.
Quand le compagnonnage se reforme au milieu du 19e siècle, parce qu'il a été dissous à la fin du 18e, c'est une volonté qui est complètement anti-industrielle, quoi. Ne pas devenir ouvrier. C'est surtout l'individu, ce qui refuse en bloc, c'est d'aller à l'usine. Quelque chose de terrorisant. Même si on n'est pas encore dans le fordisme et le terrorisme, c'est quand même l'exploitation absolue et l'esclavage. Et l'autre chose, c'est aussi garder ce truc des corporations qui sont les caisses, les mutuelles, mais ça a même allé jusqu'aux crèches, par exemple, au Moyen-Âge, avec des systèmes pour garder les enfants les uns des autres, etc.
Une première forme
de syndicalisme, justement, mais un syndicalisme de l'action, du rituel, de la fête. Et c'est là où, justement, ça se différencie de l'artisan, qui, lui, va être tout seul et va avoir sa petite boîte à 3 ou 4. Le compagnon, il est relié symboliquement, on va dire en esprit, on va dire télépathiquement, à des tonnes de gens à travers le pays et les âges, quoi. Et ça, c'est super important pour eux, ça fait partie du truc. Ouais.
Oui, il y a même des systèmes d'hébergement avec les mères. Il y a aussi tout un tas de rituels. À la fin, je ne sais pas s'ils font une sorte de rite de passage où ils se trouvent un nom qui est lié à la fois là où ils sont, mais aussi à une de leurs qualités.
Et comment ça se passe pour rejoindre les compagnons du devoir? Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce que c'est une forme qui est moins autoritaire qu'un contrat?
Non, il y a un chef-d'œuvre de réception. Et après, il y a pas mal de textes qui traitent de ça dans la revue. C'est qu'effectivement, c'est pas que la prouesse, enfin, c'est pas que l'idée d'une prouesse technique qui fait que tu as adopté compagnon. Et c'est pareil. Tu disais 5 ans, ça peut être 3 ans. Il n'y a pas tellement d'âge. C'est pas l'idée de faire l'apologie. C'est juste des compagnons. C'est juste de voir un type de fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le chef-d'œuvre, en plus, c'est un emploi que nous, enfin, qui peut être intéressant dans le domaine de l'art, et puis avec lequel on est de plus en plus mal à l'aise, mais qu'en tout cas, à cet endroit-là, de se dire que le chef-d'œuvre, il est constitué d'une manière d'être et de penser et d'agir. Et que c'est ça qui fait que tu peux devenir compagnon du devoir. Et c'est vrai qu'on se demande souvent c'est des questions qui sont assez poreuses par rapport à des manières de voir l'art, et encore plus quand on est vivant. Voilà, c'est des champs compliqués. Quoi. Quand tu dis éthique, c'est des champs un peu infinis, mais en même temps, on peut quand même en causer et en débattre. Quoi.
On va écouter une lecture du texte de Jean-Yves Joanet, une lecture de Lorraine Baud, La reliure d'art selon Johan van Man.
Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent. Mao Tse-tung, discours du 2 mai 1956. L'attaque sur Dien Bien Phu débute le 13 mars 1954 par une intense préparation d'artillerie visant le centre de résistance Béatrice, l'un des PA, points d'appui, les plus éloignés du dispositif, tenu par le 3e bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. L'assaut du Viet Minh est donné par les 141e et 209e régiments de la 312e division qui s'élance de tranchées à proximité du centre de résistance. D'après le tome 3 des mémoires du général Vo Nguyen Giap, les 2e et 428e bataillons du 141e régiment sont désignés respectivement pour l'attaque des PA1 et 2. Le 13e bataillon étant utilisé comme réserve pour le PA1. Le PA3 est attaqué quant à lui par le 130e bataillon du 209e régiment. C'est en déroulant cet ordre de bataille aride et technique qu'il vient sous la plume du général Giap une notation littéraire inattendue. Il se souvient du jeune officier, Hoang Van Man, qui commandait ce 130e bataillon du 209e régiment. Il avait étudié le français et lisait, dès qu'il en avait l'occasion, l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet. Il lui faisait songer à un homme condamné qui, lorsqu'on vient de le sortir de sa geôle pour l'emmener au supplice, glisse un signet à la page lue et referme le volume avec précaution. Car ce jeune officier, avant tous les engagements de cette bataille où chaque jour tombèrent des centaines d'hommes, marquait délicatement la page de son livre à l'aide de la fleur séchée d'un bégonia. Bégonia abbreviata, plante vivace, rampante, rhizomateuse, endémique de la plaine de Dien Bien Phu. Après la guerre contre les Français, Hoang Van Man s'établit libraire-relieur à Haiphong. Il entreprit de relier ses livres en pétales de bégonia parce que cette fleur lui avait porté bonheur. La campagne des 100 fleurs, initiée par Mao Tse-tung, s'acheva par une violente répression des intellectuels jusqu'au Vietnam. Parce que Hoang Van Man vendait des livres occidentaux, qui les avait reliés de manière non orthodoxe, selon des principes contraires à la Révolution, il fut conduit dans un camp de redressement. En 1965, il fut rendu à la liberté pour réintégrer l'armée. Ce fut une autre guerre, contre les États-Unis cette fois. De celle-ci, il ne revint pas. Il disparut lors du siège de Khe San au début de l'année 1968 durant l'offensive du Tet. On ne sait pas quel jour exactement, mais ce fut l'un des 77 jours que dura cette bataille entre le 21 janvier et le 8 avril 1968. les reliures florales de sa bibliothèque avaient tenu toutes ces années sans se flétrir. De fait, personne ne les avait touchées. En général, une reliure protège les ouvrages dans le temps où ils sont manipulés, ouverts et lus. La reliure en pétale de bégonia s'avérait une protection contre le temps de l'attente, de l'inaction, jusqu'à ce que les volumes soient repris en main. Alors, comme une fleur fanée, l'ouvrage perdait aussitôt ses pétales. C'est par la poétesse Xuan Qin, célèbre pour ses poèmes d'amour mis en chanson, que la mémoire de cette bibliothèque fut sauvegardée. Elle écrit dans son recueil « Les fleurs le long des tranchées, Oa Doc Tien Ao ». Toute tradition est estimée telle lorsqu'une coutume nous fait voyager à travers les époques. Mais il est possible qu'une tradition ne soit pas d'une espèce voyageuse, qu'elle ne soit pas même une coutume. Elle peut être inventée et ne pas durer. Huang Van Man ne tenait sa technique de personne. Personne n'en hérita. Mais sa pratique n'en est pas moins une tradition qui ne tint qu'à une personne et ne fleurit que le temps d'une saison.
On a écouté le texte de Jean-Yves Joinet. Et là, justement, il parle d'une pratique personnelle et comment cette pratique personnelle elle peut être devenir une tradition. Et c'est ça, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on n'est pas obligé de, on n'est pas obligé d'être nombreux dans ce qu'on pratique. Ça peut être juste un geste, et ce geste peut être et pas forcément être perpétué, mais créer une histoire et une tradition. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je trouve que c'est le texte de Jean-Yves Joinet. Moi, j'étais hyper heureux de le dire comme ça parce que c'est une nouvelle qui parle de plein de questions centrales par rapport à des questions que je me pose et puis qui répond de manière hyper simplement et de manière assez catégorique.
Alors, notre temps s'est presque écoulé. Est-ce que peut-être on peut dire un mot sur le numéro 2, puisque comme il s'agit d'une revue, il y a une périodicité régulière ou pas, mais est-ce que vous avez déjà envisagé le contenu et la forme? Est-ce qu'elle va être la même?
En fait, il n'y a pas de thème, mais après, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un truc sur les cigarettes, sur les temps de pause, comme je m'intéresse au paradoxe et puis aux fusions des trucs, le métal, bah, du coup, ça me plaît bien. J'aimerais bien faire un truc sur le métal, puis de se demander comment on associe des formes à ce point-là. Et puis, il y a même plein de techniques, dont la technique de soudure à rechargement, qui est une technique où on vient souder des pièces dans leur espace d'usure. Donc, en gros, le champ est infini. Puis moi, en tout cas, j'étais effectivement super content de travailler avec Sacha et François parce que, justement, ils se posent cette question de l'économie parce qu'ils ne sont pas que graphistes, ils sont aussi éditeurs. Et je crois que dans la manière de construire les choses, pour moi, en tout cas, c'était important de que les choses soient associées de cette manière-là, de se dire ce projet il va être diffusé, comment on le diffuse, comment on rencontre le public, et puis aussi de se dire que... Moi, je suis assez fasciné par l'idée de perdre de l'argent. Enfin, c'est vrai que dès que j'ai un projet où je me dis, tiens, je peux perdre de l'argent, je me dis, ça va être un bon projet.
Ça tombe bien, c'est notre quotidien, merci.
Et en même temps, voilà, du coup, on se réunit un peu à ce moment-là, et puis de se dire quand même... c'est pour faire une blague, en même temps, de se dire... c'est vrai qu'on n'est pas dans un endroit où on sait qu'on ne va pas faire un best-seller, mais en même temps, on a envie que ça existe, et je crois que cette envie... que cette revue existe est mutuelle, et du coup, on a envie de la poursuivre, Et c'est pareil pour ça, que cette expo, il n'y a pas de fin. Et moi, je trouve que ça bien qu'il n'y ait pas de fin et que les choses se définissent en fonction de ce qui se passe. Quoi, voilà.
Et que ce soit toujours en train de se faire, quelque part.
Et il faut se reposer aussi. Ouais. C'est sur le temps de pause la prochaine fois, il faut que on va se reposer aussi, mais qu'on, voilà, que ça se fasse un peu sur un rythme comme ça.
Est-ce que... ouais, Sacha, tu veux intervenir sur le second numéro, Sacha et François?
Évidemment, en fait, on pense et puis on fantasme à plein d'endroits le numéro 2, le numéro 3. Et justement, en imaginant que ça puisse être une série qui ne rentre pas dans un format donné, dans un nombre de pages donné, dans des matières données, avec une habitude éditoriale qui serait donnée, un nombre d'auteurs, des nombres de signes, des images ou des thématiques... pour l'instant, on a pensé des numéros à des moments thématisés, mais peut-être pas. Et finalement, c'est aussi ça qui est excitant, c'est de se dire que l'espace de ce qu'on appelle une revue, qui en fait, peut-être pas une revue, puisque comme tu le disais, elle n'a pas de sommaire, ce qui définit légalement, pour avoir le tarif revue à la Poste, il faut avoir un sommaire.
Ah, mais ça, je l'ignorais. Hein. Non, Véridique, je l'ignorais.
Et légalement, ça définit une revue. Et ce n'est donc pas une revue. Simon, je suis navré de te dire qu'on t'a escroqué. Voilà. Tu n'as pas fait une revue. Mais en tout cas, l'idée est justement de travailler plutôt des rythmes de format et de nombre de pages et pour ne pas tomber dans une routine. Et évidemment, si on veut avoir un numéro 2, il faut pouvoir acheter le numéro 1.
Donc merci au FRAC Normandie, Rouen et à l'équipe de Dieu Radio. Restez branchés, notre conversation s'arrête ici, mais ne ratez pas le concert de Bernardino Feminelli. Merci Simon Niquez, Théo Robin-Langlois, Sacha Léopold, François Avger, Damien Hérault et Julie Portier. On se quitte sur une lecture de Gilles Furtwängler intitulée « Bâtard capuche ». Bonsoir.
Bâtard capuche, bâtard capuche, bonnet idiot, vermine bras cassés, bâtard capuche, bâtard capuche, bonnet idiot, glandeur pied de biche, bâtard capuche, bâtard capuche, bonnet idiot, vermine bras cassés, bâtard capuche, bâtard capuche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Gilles. Pour commencer cette lecture, j'ai envie de partager avec vous cette chanson écrite avec Limo, mes voisins, très actifs sur le groupe WhatsApp du quartier. J'en profite aussi pour remercier du fond du cœur Simon Niquez pour son invitation dans cette très belle exposition, également le FRAC et toute son équipe. Bonnet idiot, glandeur, menace, bâtard, capuche, bâtard, capuche, bonnet idiot, vermine, bras cassés, bâtard, capuche, bâtard, capuche, bonnet, idiot, glandeur, pied de biche, bâtard, capuche, bâtard, capuche, les droits de l'homme vont te sauver. Bonnet, idiot, vermine, bras cassés, bâtard, capuche, bâtard, capuche, les droits de l'homme vont te sauver. Bonnet, idiot, vermine, bras cassés, bâtard, capuche, les droits de l'homme vont te sauver. Bonnet, idiot, vermine, bras cassés, rat, capuche, cafard, capuche, claque, respect, bonnet, idiot, paresse, menace, pied de biche, docile, chacal, chèvre, rat, capuche, cafard, capuche, pied de biche, hache, pieds de biche défoncés.